le 4e centenaire de la fondation du site marial de Notre-Dame de Buglose, 1622-2022, retransmission de la journée d'études de la Société de Borda, associée au diocèse d'Eredax, journée d'études qui s'est déroulée le 30 avril 2022. Les miracles thérapeutiques et les miraculés de Notre-Dame de Buglose, de 1622 à la fin du règne de Louis XIV, voici l'intervention du professeur Philippe Loupès.
Dès sa renaissance, dès sa refondation en 1620-1622, Buglose a attiré les dévots, en particulier les dévots de Bordeaux, malgré l'éloignement, sont venus assez nombreux. Dès les premières années, alors aujourd'hui, ce sont deux universitaires bordelais qui vont prendre la parole aujourd'hui, cet après-midi, mon collègue Nicolas Champ et moi-même ce matin, donc Université Bordeaux, Michel Montaigne. Ce que je vais donner là en une demi-heure n'est que le résumé de ma communication, car le sujet est très très vaste. Pour le traiter en une demi-heure. Ce sont, on peut le supposer, des milliers de fidèles, de pèlerins qui sont venus en un siècle. Et je ne vais parler que de quelques-uns ou de certaines catégories. Pour un historien, traiter des miracles demeure encore un sujet sensible, même si les esprits se sont apaisés dans ce domaine. Des débuts de la Troisième République jusqu'au milieu du XXe siècle, les miracles qui s'étaient passés à l'époque moderne ont été étudiés de façon contrastée. D'un côté, affirmés par les érudits ecclésiastiques, ils étaient dénoncés comme des impostures par les historiens rationalistes. Abandonnant l'épistémologie positiviste, la nouvelle histoire religieuse qui se met en place, qui s'est particulièrement développée dans les années 50 du XXe siècle, ne considère plus le miracle comme une catégorie scientifique ni philosophique, mais anthropologique. Il ne s'agit pas de trancher dans le débat de la réalité de l'intervention divine, il s'agit d'observer, d'analyser des phénomènes perçus et décrit par les contemporains. La sociologie des miraculés se tient désormais à égale distance de l'ironie voltairienne et de la révérence dévote. Première chose à mettre en place, c'est évoquer le cadre du XVIIe siècle, un très grand siècle marial. Grand siècle marial entre deux grands siècles Mario également, au Moyen-Âge, le XIIIe siècle, et par la suite, le XIXe siècle. Et entre les deux, le XVIIe siècle est bien une grande époque pour Notre-Dame. À cela, différentes raisons. En cantonnant la Vierge à un rôle second, les réformés suscitent une réaction tridentine qui s'épanouit dans ce qu'on a appelé généralement la contre-réforme, et plus souvent de nos jours, on parle de réforme catholique. Nous connaissons tous la consécration, un acte très très fort, la consécration par Louis XIII de son royaume à Notre-Dame en 1638. Dans ces années 1620, on peut dire sous le règne de Louis XIII qu'il y a deux groupes de sanctuaires thérapeutiques. Il y a d'un côté les sanctuaires médiévaux réputés qui reprennent une certaine activité après une période peut-être d'atonie au XVIe siècle. Je pense à Chartres, Le Puy, Rocamadour, Cléry, Liès. Et puis il y a des sanctuaires moins importants qui renaissent ou qui sont refondés, qui sont même quelquefois créés ex nihilo, à la suite de l'invention, invention au sens archéologique du terme, d'une statue ou à l'occasion d'une apparition céleste. Je pense à Notre-Dame de Lumière dans le Luberon, qui a été remarquablement étudiée. Buglos appartient à cette dernière famille et ma problématique sera la suivante. Tous les travaux sur les sanctuaires mariaux, en plein essor au XVIIe siècle, montrent une évidente parenté, mais en raison de la particularité bien connue des Landes, particularité que vous affirmez très fort et très haut dans le cadre de la société de Borda, on peut s'interroger, y a-t-il une spécificité de Buglos ? Bien, j'essaierai de répondre à cette question à partir d'un document classique, d'une base très sûre. Et monsieur le maire avait raison d'insister sur l'importance des documents. Nous devons faire de l'histoire uniquement à partir de documents et non point d'idées préconçues ou d'idées personnelles. Et je me suis servi de l'ouvrage capital qui est celui du père Moriol, qui a écrit l'histoire de la Sainte-Chapelle et des miracles de Notre-Dame de Buglos, et qui a été publié en 1726 à Bordeaux, ce qui n'est pas un hasard, parce que Bordeaux était un centre non négligeable de publications, en particulier religieuses, et puis aussi parce qu'il y avait cet intérêt des dévots bordelais pour Buglos. Donc, 1726, cet ouvrage qui est en quelque sorte un guide de Buglos. L'auteur n'est pas toujours cité, mais on est sûr de son identité. Il s'agit de Raymond de Moriol, 1674-1747, qui a lui-même été miraculé de Notre-Dame de Buglos et qui parle donc en connaissance de cause et avec un intérêt très fort. L'ouvrage est composé alors qu'il est supérieur de la mission lazariste de Buglos entre 1709 et 1740. Et il parle de choses qu'il connaît parfaitement. Je dis que cet ouvrage a des apparences de guide parce qu'il s'agit, dans l'esprit de l'époque, d'attirer, de faire connaître les miracles de Notre-Dame et d'attirer de nouveaux dévots. Vous connaissez, je ne vais pas revenir sur les origines obscures et merveilleuses de Buglos, sur l'enracinement de fidélité de population locale dans ce locus sacral. On pourrait y consacrer toute une demi-journée. Je voudrais seulement dire, dans une optique comparative que je développerai par la suite, la parenté de Buglos avec d'autres sanctuaires mariaux, en particulier Verdelais, que je connais bien, sur lequel j'ai travaillé, Verdelais étant Gironde, pas loin de Langon, et il y a eu, pour ces deux sanctuaires, des assauts huguenots, destruction de chapelles, et ensevelissement de la statue qui était l'objet de la dévotion. Et cette statue, pour ces deux sanctuaires, est retrouvé de façon miraculeuse au début du XVIIe siècle, grâce à l'initiative pour les deux sanctuaires d'un bœuf qui signale, qui se met à genoux pour Verdelais et qui indique l'objet miraculeux qui servira pour les populations locales. Dans une ambiance de merveilleux populaire, je dirais que l'animal domestique est le messager de Dieu pour ses premiers sanctuaires. À Buglos, la date de l'invention n'est pas fortuite, 1620, c'est l'intervention de Louis XIII en Béarn dans un contexte de reconquête catholique. Alors, les conditions sont extrêmement favorables à Buglos, une solitude, des évêques protecteurs, une communauté religieuse. Solitude d'abord qui est très importante pour les lieux de pèlerinage, qui a été remarquablement analysée par la grande spécialiste de la question, Marie-Hélène Fröchlet-Chopard, historienne spécialiste de la religion populaire, surtout en Provence, et qui met en avant toujours le succès d'un sanctuaire thérapeutique avec trois éléments, la roche, l'arbre et la source. Alors la roche, nous ne l'avons pas à Buglose, nous avons du sable peut-être, mais nous avons cette solitude, notre auteur définit le site comme, je cite, « une solitude charmante accompagnée d'un petit bois ». Et nous savons que la Vierge a une préférence marquée pour les lieux agrestes. Deuxième élément, ce sont les évêques de Dax, et en particulier Mgr Jacques Dussault, qui lance le mouvement pour Pentecôte 1622, tel que ça a été évoqué. Une grande cérémonie qui relève de ce que l'abbé Brémond appelait l'invasion mystique, vaste mouvement qui va être relayé dans la seconde moitié du XVIIe siècle par ce que Michel Vauvel, grand spécialiste de la question, appelait l'invasion dévote. 1622, donc date capitale pour le sud-ouest, parce que c'est également en 1622-23 que le grand cardinal de Sourdis, archevêque de Bordeaux, fait renaître Verdelet. Bon, je ne parle pas des successeurs de Mgr Dussault, qui ont été tout aussi actifs. J'évoquerai, mais je ne fais que mentionner, l'importance des lazaristes, des prêtres de la mission, qui ont été installés dans ce pèlerinage pour le faire fructifier. Et il a été prouvé que l'étude comparative des sanctuaires à l'époque tridentine montre éloquemment que la présence d'une communauté religieuse est absolument indispensable pour le succès d'un sanctuaire. Quand il n'y a pas eu des prêtres sur place pour faire connaître, pour guider les pèlerins, pèlerinages ont décliné. Donc, un bâtiment, des structures monumentales de qualité également, et rapidement, dès la procession de 1622, se développe la demande pratique, la demande de guérison. Alors, j'ai un panel dans ce que j'appellerais un guide, un panel de miracles thérapeutiques qui est très très abondant, d'autant plus abondant que nous sommes à une époque où fleurissent, selon l'expression célèbre, les malheurs du temps. Ces calamités absolument incroyables, typiques de l'époque de la guerre de 30 ans. Et cette demande de guérison est d'autant plus importante que la maladie est perçue comme une destruction, un envahissement par la mort. Elle se manifeste d'ailleurs dans nos sources souvent par le dessèchement du corps, voire par son pourrissement, prémisse de la décomposition des cadavres. En 1623, dès les débuts, la jeune Marie de Iribéry, native de Bidart, est transportée à Buglos par ses parents, je cite, « avec la jambe et les pieds gauches desséchés et sans mouvement ». Je pourrais citer d'autres exemples, mais je n'ai pas le temps. À la guérison du corps correspond la guérison de l'âme, en fait beaucoup plus importante. Le vrai miracle, nous dit notre auteur, je cite, « ce sont les résurrections spirituelles, c'est-à-dire les confessions sérieuses et solides d'un grand nombre de personnes par le moyen des confessions générales ». Et là, avec la confession générale, nous touchons quelque chose d'essentiel dans la pratique et la spiritualité du XVIIe siècle. C'est une confession, pas à la va-vite en 5 minutes, c'est une réflexion sur toute sa vie et une sorte, qui aboutit souvent à une sorte de conversion. Le discours moraliste des turiféraires du pèlerinage s'inscrit tout à fait dans celui de l'Église qui assigne aux maladies une origine divine. Alors, comment se fait l'invocation ? L'invocation est variable. Elle peut être le fait du malade lui-même. Pour les adultes, c'est généralement le malade lui-même qui se tourne vers Notre-Dame de Buglos. Et à la différence d'autres sanctuaires, il n'est pas fait mention ici du conjoint agissant dans le couple. Pour Verdelet, d'autres sanctuaires, c'est souvent une femme qui implore la Vierge pour son mari ou vice-versa. Je ne l'ai pas trouvé. L'invocation donc se fait selon et le fait des adultes, et pour les enfants, elle est l'initiative généralement le fait de la famille étroite, L'initiative de l'invocation vient parfois du père, mais plus souvent de la mère. Et le grand nombre d'enfants malades conduits à Buglos témoigne de la sollicitude pour les enfants qui nous amène donc à revoir la vision historique traditionnelle qui fait naître l'intérêt pour l'enfant seulement au XVIIIe siècle. En fait, tous les travaux les plus récents montrent que déjà au XVIIe siècle, il y a un intérêt très très fort pour l'enfant. Il s'agit donc d'enfants qui peuvent quelquefois agir à leur initiative propre. Il arrive que ce soit l'enfant qui se manifeste en premier lieu. Je prendrai le cas de Marguerite de Feignas, qui, ayant entendu parler des merveilles que Dieu opère à Buglos, cet enfant de 9 ans, atteint d'une mal caduque et percluse d'un pied, je cite, conjura diverses fois les parents de l'y faire porter, ce qu'ils refusèrent, la traitant d'imbécile. Enfin, après toi, mon insistance réitérée, se sentant fort faible et perdant peu à peu l'usage de la parole, elle fit entendre à son père qu'elle croyait qu'en peu de jours, il y serait impossible de faire le signe de la croix et de prier Dieu. Et en effet, trois jours après, elle fut entièrement privée de l'usage de la parole. Finalement, sa mère reconnut sa faute et, avec l'aide d'une voisine, la conduisit à Buglos, où le miracle se produisit. Donc, c'est un cas assez original d'une enfant qui prend l'initiative. Dans ces invocations, nous trouvons deux modèles. Il y a d'abord le modèle ancien, que l'on trouve dans d'autres sanctuaires, mais qui est très marqué à Buglos au départ, où l'on imagine qu'il faut se rendre sur les lieux du pèlerinage, avoir un contact physique avec le lieu sacré, s'approcher de la statue, même éventuellement la toucher, aller à la fontaine. Dans cette première vision, dans cette première démarche, le lieu est absolument capital. Un deuxième modèle, plus original, modèle élitiste, développe ce qu'on appelle l'invocation à distance. C'est un approfondissement de la spiritualité qui fait qu'on n'a pas besoin, au départ, d'aller à Buglos, mais on invoque en esprit, en prière, Notre-Dame, on la sollicite. C'est tout à fait typique des élites. Mais ce modèle commence à apparaître dans les démarches. Et on voit, par exemple, un berger landais qui était dans un état pitoyable se tourner vers le ciel, vers une étoile, et implorer à distance la Vierge de Buglos. Donc c'est un modèle qui se développe avec une base élitiste. Comment le pèlerinage prend-il forme? Eh bien, en direction de Buglos, les pèlerinages sont soit individuels, soit collectifs. Le pèlerinage individuel est le plus discret. Et pourtant, il ne passe guère inaperçu, surtout entre Dax et le sanctuaire, où cheminent ânes, mules, chariots transportant les invalides. On a recours aussi à d'autres moyens terrestres. Par exemple, on utilise le bateau pour aller de l'embouchure de la Dour jusqu'à Dax. Et on peut dire que les dévots du diocèse de Bayonne, de la région de Bayonne, de Biarritz, de Bidart, viennent par la Dour et ensuite cheminent de Dax à Buglos. À l'aller, le malade se fait souvent porter. En revanche, au retour, après avoir abandonné les potences, c'est-à-dire les béquilles, à la chapelle, il rentre à pied à Dax et il veut absolument faire ce retour jusqu'à Dax à pied pour porter témoignage de la grâce divine. Il arrive qu'il fasse totalement le retour à pied comme cet habitant des Pyrénées qui affronte à pied ses, je cite, 9 lieues du pays et qui... On a aussi l'utilisation combinée de plusieurs moyens de transport comme en 23, Jeanne de Guert, âgée de 29 ans, placée comme servante à Bayonne, alitée depuis 6 mois, se rend en bateau jusqu'à Dax, puis en charrette jusqu'au sanctuaire. Pour intéressant que soit le pèlerinage individuel, plus important pour l'Église est le pèlerinage collectif. Il se place à un autre niveau, surtout dans la dimension paroissiale. Il concerne les paroisses de la Chalosse, des Landes et surtout celles qui sont dans un rayon de 2 à 3 lieues à la ronde. C'est le pèlerinage qui présente le plus de garanties car il est régi par ce qu'on appelle l'ordinaire, expression classique sous l'Ancien Régime, la justice ordinaire, c'est-à-dire l'autorité épiscopale. Et il induit des normes tridentines d'ordre, de bienséance, en un mot de décence. Décence, c'est le maître mot de la réforme tridentine. On ne saurait entreprendre ce pèlerinage, nous dit notre auteur, je cite, par curiosité, par légèreté, par paresse. Toujours le père Moriol, on ne peut rien voir de plus édifiant ni de mieux ordonné que ces processions. Tous les paroissiens y marchent avec ordre, posément, avec modestie, piété, recueillement, deux par deux, un cierge à la main, et chacun dans son rang. Les enfants les premiers, ensuite le clergé, puis les hommes, et enfin des femmes et des filles. On chante pendant tout le chemin des hymnes et des cantiques, des psaumes et des litanies. À l'arrivée se succèdent hymnes, se succèdent confessions, prières, puis une messe, puis un sermon. Et le retour dans la journée se fait dans le même ordre, sous l'emblème de la croix et de la bannière, qui présente d'un côté l'image de la Vierge, de l'autre le patron de la paroisse. Ce type de pèlerinage annuel concerne toutes les paroisses à plusieurs lieux à la ronde. Ce pèlerinage paroissial constitue un fort élément de cohésion sociale et Alphonse Dupront, qui était le grand spécialiste de la question, a fait bien montrer comment la société pérégrine, où se confondent âge, sexe, conditions claires et laïques, est vécue comme absolument extraordinaire, toujours dans une finalité d'orthopraxie catholique. Interrogeons-nous sur le temps du pèlerinage. Existe-t-il une saison privilégiée pour pèleriner ? En fait, on se rend à Buglos toute l'année. La douceur du climat aquitain le permet, mais on y va surtout de Pâques à octobre, comme dans la plupart des pèlerinages mariaux du royaume. À Buglos, et vous ne serez pas surpris, les temps forts du pèlerinage sont Pentecôte, en fonction de cette grande procession organisée en 1622 par Monseigneur Dussault, mais surtout les fêtes mariales, et parmi les fêtes mariales, deux se taillent la part du lion, l'Assomption et la Nativité de la Vierge, le 8 septembre. Combien de temps reste-t-on à Buglos en exercice de piété? Souvent, une seule nuit. Une seule nuit, mais généralement 2 ou 3 jours semblent souhaitables, et les pèlerins les plus motivés reste jusqu'à 9 jours. J'insiste sur ce chiffre de 9. Le chiffre de 9 présente pour Buglos en quelque sorte un caractère sacré, quasi magique. Prenons en exemple en 1623 celui de Marguerite de Villamont. S'il y a des deux, ne croyez pas que ce soit des aristocrates. Hein, non, pas du tout. Ce sont des gens simples dont on indique le village. Elle est hémiplégique depuis 20 ans, elle ne peut marcher. Portée à Buglos, elle y fait une neuvaine et passe ses nuits en prière dans la chapelle. Après 9 jours, elle est parfaitement guérie et elle retourne à pied chez elle. Le premier jour, elle fait 9 lieues. 9 lieues. Donc, vous avez ce chiffre répétitif, que je ne peux pas d'ailleurs toujours expliquer. Quelle est la gestation du miracle et comment se fait le récit? Particulièrement heureux sont les miraculés dans l'instant, souvent au cours d'une messe, c'est très fréquent, et plus spécialement au moment de l'élévation. Ce miracle spectaculaire concerne surtout les aveugles et les paralytiques. Mais pour gagner la guérison, il faut souvent affronter un redoublement de douleurs, et la survenue du miracle se fait parfois par étapes, surtout pour les rhumatisants. Nous connaissons le caractère de cette pathologie où la récupération n'est pas spécialement soudaine. Donc, un exemple illustrissime, c'est celui de Marianne de Neubourg. la reine douairière d'Espagne, la veuve du dernier des Habsbourg, Charles II, qui est retiré à Bayonne, chassé par Philippe V d'Espagne, et elle a fait 3 pèlerinages à Buglos, et lors du premier pèlerinage, elle se dit simplement soulagée. Donc les rhumatisants reviennent plusieurs fois. Les récits, quelle tonalité ont-ils ? L'ouvrage sur Buglos, que l'on pourrait qualifier de quasi-guide, est volontairement ancré dans le terroir avec des récits simples, absolument pas entachés d'outrance, d'autant qu'il y a le filtre ecclésiastique du père Moriol. Il ne peut pas écrire et encore moins imprimer des choses outrancières. Donc, les faits sont rapportés avec modestie, ils s'inscrivent généralement dans un contexte de préoccupation banale. Il y a volonté manifeste de ne pas enjoliver, dans la mesure d'ailleurs où le public pourrait très bien s'informer sur place. Buglos est très proche de villes importantes comme Dax et Bayonne. D'où le souci de précision des toponymes, des patronymes, citations de témoins. Et ces témoins sont d'autant plus dignes de foi qu'ils sont gens de qualité. Dans une société très hiérarchisée, des préséances, la noblesse et les gens de bonne société ont un poids beaucoup plus grand que les simples manants. Et ce long XVIIe siècle, le cadre de notre étude correspond bien à la grande époque de la réforme catholique avec une prépondérance du règne de Louis XIII. Le règne de Louis XIII, c'est vraiment le temps des miracles. Le temps des miracles, comme l'a dénommé un autre grand spécialiste de ces questions, Jean de Viguerie, il correspond à la première moitié du XVIIe siècle. C'est également cette période qu'on trouve en importance première à Verdelet. Il convient d'insister sur le fait qu'il y a quand même prolongement de la réforme catholique avec une certaine vitalité jusque dans les années 1730-1740, alors qu'on est en pleine régence, début du règne de Louis XV. La réforme catholique continue brillamment à cette époque. De façon phonologique, dans le guide de Morial, il y a surreprésentation des années 1620, parce que ce sont les débuts pour lancer le pèlerinage, et puis le début du XVIIIe siècle, parce qu'il a été en charge du pèlerinage. 20 ans, il a dirigé le pèlerinage sur place. Donc, il avait pléthore d'informations directes. Quelle pathologie guérit Notre-Dame de Buglos ? Alors là, je commencerai par l'évocation de pèlerinage très spécialisé, comme Notre-Dame de Lumière dans le Luberon, appelée ainsi parce qu'en 1661, un simple paysan avait aperçu à l'emplacement d'une ancienne chapelle dédiée à la Vierge un très bel enfant, identifié aussitôt à l'enfant Jésus, dans une étrange lumière, d'où Notre-Dame de Lumière. Et aussitôt s'était produit le miracle, ce paysan qui souffrait d'une hernie avait était instantanément guéri, et Notre-Dame de Lumière est devenue spécialiste de la guérison des aveugles, enfin des malvoyants, lumière, et puis des hernies. Donc quelque chose de très spécialisé. Ce n'est pas le cas pour Notre-Dame de Buglos, qui est une généraliste. Elle est capable, elle est universelle. Elle est à même de soulager ou de guérir tous les maux, comme le montrent d'ailleurs les chapitres dûment numérotés par Mariol. Je n'ai pas pu évidemment quantifier ces miracles, il y en a énormément, mais le panel dont je dispose est un panel totalement subjectif. Il a pris ce qui l'intéressait à des époques qui l'intéressaient. Donc un traitement quantitatif comme nous faisons, nous les historiens du XXe, XXIe siècle, est absolument impossible. Ou si on le pratiquait, il serait fallacieux, enfin il serait biaisé, donc je ne m'y livrerai pas. Je retiendrai uniquement, j'essaierai de dégager une typologie des pathologies en gros, et avec une prépondérance peut-être des miracles qu'on appelle christiques, les miracles christiques pour les paralytiques et les aveugles, donc, qui arrivent largement en tête. après les paralytiques et les aveugles, viennent les muets, les épileptiques, les personnes affligées d'ulcères, de tumeurs, les rhumatisants. Donc, toutes sortes de pathologies. L'aire d'influence, quelle est-elle? Ce sont des régions immédiates. Les régions pourvoyeuses, c'est la Chalosse, les Landes, le Pays Basque, les Pyrénées. Et en toute logique, la région de Dax, à proximité immédiate du pèlerinage, est surreprésentée. Mais il convient de signaler aussi l'importance de Bayonne et de ses environs, Biarritz et Anglet. Pourquoi? Parce que nous sommes là à un nœud de communication fluviale en liaison avec Dax. Cette importance des cours d'eau a été montrée, pour les pèlerinages, a été montrée dans les Pays de la Loire et dans le bassin parisien. Mais la renommée du sanctuaire s'étend à l'Aquitaine entière et à Bordeaux, par exemple, les premiers dévots de Buglos sont des notables de toute première importance. C'est le milieu parlementaire. Attention, parlementaire, pas des députés, hein. Ce sont des juges de cours d'appel sous l'Ancien Régime, ceux qui tiennent le haut du pavé et qui sont très engagés dans la réforme tridentine. Là, la réputation de Buglos va très loin, elle va jusque en Aragon. Quelle est la condition sociale des miraculés? Eh bien, cela va du simple gueux à une reine douairière d'Espagne, Marianne de Neubourg. Le pèlerinage de cette dernière est bien connu et il a été évidemment traité abondamment dans les ouvrages religieux parce que, disons très simplement, c'est un appel, c'est une réclame qu'une reine d'Espagne miraculée de Buglos. Comme le montrent d'autres guides de pèlerinage, les notables confortent en quelque sorte le pèlerinage. Ce sont des nobles landais, des officiers, également des curés. Ceux-ci, parmi les miraculés, sont très très nombreux, des nobliaux. Mais il n'y a pas que seulement les élites sociales. Il y a des marchands, des artisans, et puis alors surtout, la grande masse des miraculés, ce sont des gens très très simples, dont on n'indique même pas l'activité. On peut supposer qu'ils travaillent dans des activités agricoles. On ne mentionne pas leur activité. Ils sont touchants dans leur foi de charbonnier qu'ils expriment dans des gestes répétitifs et ritualisés avec des mots très simples. Il y a dans leur discours sommaire une confiance aussi naïve que totale à Notre-Dame de Buglos. Après le miracle lui-même, a lieu la reconnaissance du miracle et le pèlerinage d'action de grâce. Alors la reconnaissance, elle se fait au sanctuaire même, souvent devant un notaire, devant les lazaristes, et on fait appel à des témoins de la situation antérieure du malade et de son état actuel. Donc on signe force document et les gens du peuple sont présents d'ailleurs et eux comptent sur les preuves matérielles. Les miraculés laissent au sanctuaire les potences, leurs béquilles et aussi les chariots. Mais pour la reconnaissance juridique, les plus importants sont des hommes de loi et des ecclésiastiques car il y a un enregistrement par écrit. Signalons que si par la suite la guérison n'est pas suivie d'un pèlerinage d'action de grâce et d'un déplacement du miraculé au lieu même, à Buglos, le bâton divin peut s'abattre sur la personne qui n'a pas tenu ses promesses. Et il y a de très nombreux exemples sur lesquels je passe de gens punis et qui reconnaissent leur tort, qui finissent par reconnaître leur tort. Alors, une question qui est à la limite de l'histoire, évidemment, quelle est l'efficacité du pèlerinage, des miracles? Eh bien, par-delà les multiples récits de miracles, l'efficacité semble très très grande. Note l'auteur n'en garde pas moins le silence sur les pèlerins dont les vœux n'ont pas été couronnés de succès, et il se montre particulièrement prudent dans ses conclusions. Je vous les cite, c'est très intéressant. « Ces miracles qui s'opèrent très fréquemment dans la sainte solitude de Buglos n'éclatent pas toujours aux yeux des hommes, mais les anges qui en sont témoins s'en réjouissent dans le ciel. » Fin de citation. Donc, et parmi les résurrections spirituelles, elles sont bien connues. Enfin, je voudrais terminer sur Notre-Dame de Buglos, rempart contre l'hérésie. Cette renaissance du sanctuaire se place juste en 1620, au moment de l'expédition militaire de Louis XIII, et dans un contexte anti-protestant, dans un état d'esprit expiatoire. Mauriol traite à plusieurs reprises de cas de réformés qui étaient revenus au catholicisme et puis qui sont revenus à leur hérésie et qui sont punis. Il y a régulièrement ce discours contre l'hérésie. Cette spécificité de Buglos ne saurait nous surprendre pour un sanctuaire placé aux limites septentrionales de ce qu'on appelle une frontière de catholicité. N'oubliez pas que Orthès, où Jeanne d'Albret avait installé l'Académie protestante de Béarn, n'est pas éloigné. Et ça, nous l'avons pour toute la France. Même situation pour le sanctuaire célébrissime des Ardiliers à Saumur. Saumur qu'on appelait la Nouvelle Genève. Également Notre-Dame du Laus, près de Gap, si proche du Dauphiné protestant. Également Notre-Dame de Lumière, dans le Luberon, qui est une véritable réforme protestante, véritable montagne protestante, avec ses communautés vaudoises liées à la réforme. Donc Marie est donc la mieux placée pour confondre les protestants et ramener les brebis égarées au bercail. En conclusion, la Vierge est bien médiatrice entre Dieu et les hommes. Marie est à la fois mère de Dieu et des hommes, je cite, à la fois proche des dévotions populaires par son caractère de sainte et de médiatrice, bien au-dessus des autres saints, Sainte Anne, Saint Joseph et a fortiori des saints du terroir auxquels, nous le savons, vous le savez, les Landais sont particulièrement attachés. La restauration de Buglos s'inscrit à la fois dans un contexte populaire compris par tous et dans le plan pastoral du clergé tridentin du XVIIe siècle qui est parfaitement formaté et qui est parfaitement annoncé à tous les serments dominicaux. Nous sommes à l'époque où le serment pastoral est obligatoire. Tout curé titulaire d'une paroisse doit faire un sermon. Donc les fidèles en entendent parler. Le sanctuaire dispose de la plupart des atouts pour diffuser le culte de la Vierge dans le cadre de la réforme catholique à son apogée, facilité d'accès, ancrage dans un espace de contact dont l'axe est bien l'Adour, avec des bâtiments dont je n'ai pas parlé, des bâtiments parfaitement adéquats, avec une congrégation dont on parla dans la journée, congrégation des frères de la mission, particulièrement agissant au berceau même de M. Vincent. Nous avons là un foyer de sacralité qui répond parfaitement à l'appétit de surnaturel propre au peuple de Dieu à l'époque moderne. Alors, Buglos, dernière question, ne serait-ce qu'un petit territoire, un petit sanctuaire de terroir ? Non, pas du tout. Nous avons cette catégorie de tout petits sanctuaires en Provence, très très bien étudiés, mais qui ne sont pas ouverts en permanence, qui se manifestent une fois dans l'année. Buglos, ce n'est pas ça du tout, c'est un vrai sanctuaire. Et malgré l'originalité de la Chalosse et des Landes régulièrement signalée et analysée, il n'y a pas à mes yeux, de profonde spécificité de Buglos. Pour attachant qu'il soit, Buglos est un sanctuaire régional, comme d'autres, dans la famille florissante des pèlerinages mariaux à l'apogée de la réforme catholique. Je vous remercie pour votre attention.
Les miracles thérapeutiques et les miraculés de Notre-Dame de Buglos de 1622 à la fin du règne de Louis XIV. Vous venez de suivre l'intervention de Philippe Loupès. Le quatrième centenaire de la fondation du site marial de Notre-Dame de Buglos, 1622-2022, retransmission de la journée d'études de la société de Borda, associée au diocèse d'Eredax, journée d'études qui s'est déroulée le 30 avril 2022.